trois invités, un filmeur et deux auteurs, la revue de poésie La Tête et les Cornes reçoit Alain Cavalier le temps d'un hors-série et fait de sa pratique de cinéaste un objet d'écriture avec aujourd'hui Marie de Quatre-Barbes, cofondatrice de la dite revue, la traductrice et poète Lucie Taïeb et bien sûr Alain Cavalier.
Poésie et ainsi de suite par Manu Farine.
Et c'est jusqu'à 16h. Alain Cavalier, Lucie Taïeb, Marie de Quatre-Barbes, bonjour. Bienvenue bonjour, à tous les trois. Bonjour. C'est une revue qui se joue ici aujourd'hui ou qui se rejoue en chair et en os dans ce studio, partiellement en tout cas avec vous, donc Marie de Quatre-Barbes, auteur entre performance et poésie et cofondatrice avec Maëlle Guédon et Benoît Berthelier de la revue de poésie et de traduction La Tête et les Cornes. Qu'est-ce qu'il faut d'ailleurs comprendre par ce titre, hein. Qu'est-ce qu'il dit de la revue Marie de Quatre-Barbes?
Alors je crois qu'on a tous une réponse différente à cette question et je ne vais pas me lancer dans la mienne parce qu'elle est très longue, ça suppose de raconter beaucoup d'histoires.
Moi j'aurais quand même bien aimé entendre votre petite histoire.
Oui, bah en fait c'est un peu comme à chaque fois qu'on doit nommer quelque chose, surtout collectivement, ça prend beaucoup de temps, on en discute et toutes ces discussions sont toujours passionnantes et finalement les choses décantent et je crois en fait me souvenir que nous avions envie de mettre cette revue sous le signe de la chance. Pourquoi pas, après tout. Et peut-être que même chance a été envisagé à un moment comme le titre. Et puis finalement, les cornes en fait sont arrivées comme l'image peut-être du cocu, hein, dont on dit qu'il est chanceux. Et peut-être que c'est une revue qui d'emblée se proposait de faire. Se mettre un peu comme ça dans une espèce de geste un peu martial, parce que la tête et les cornes, c'est presque un petit peu offensif, et puis c'est en même temps un peu joueur. Parfois, certaines personnes pensent qu'il y a une référence à la corrida, alors c'est pas trop l'intention. Faut dire aussi qu'on a une ligne, enfin, graphique au départ très rouge. Et voilà. En tout cas, la tête et les cornes, on était contents aussi que ce titre rencontre Alain Cavalier. Aussi à cause du film Le Caravage. Et ça nous a semblé aussi une rencontre logique.
Donc c'est un hors-série de La Tête et les Cornes qui vient de paraître autour de vous, Alain Cavalier, ou plutôt avec vous, pour reprendre le titre. 36 pages, un long entretien qui s'attarde particulièrement sur Le Paradis, hein, un film réalisé en 2013 entre Pater et Le Caravage, justement. Un entretien qui dit, ou en tout cas qui creuse, l'expérience du filmeur comme expérience de soi, suivie de 12 textes écrits avec ou sur vous, Alain Cavalier, hein, parmi lesquels ceux d'Emmanuel Laugier, David Lespiot, Jean-Philippe Cazier, Emmanuel Jawad, et comme ça tombe bien, le vôtre, Lucie Taïeb, poète, écrivain et traductrice. Il y a là des récits, sous forme de journaux, parfois de poèmes en prose, de poèmes en vers libres, par des auteurs, spectateurs ou non d'ailleurs, hein, de vos films, Alain Cavalier, évocations frontales ou plus secrètes, je pense à Lettres d'un cinéaste, sollicité à plusieurs reprises, hein, par les auteurs, à vos 24 portraits, à Irène, au filmeur bien sûr, mais aussi à L'Insoumis, l'un de vos premiers films, ou à La Chamade, avec Catherine Deneuve, en 1968. Qu'avez-vous dit, Marie de Quatre-Barbes, à ses auteurs, et surtout, qu'avez-vous dit à Alain Cavalier?
En fait, on n'a pas du tout cherché à proposer à des auteurs dont nous savions d'avance qu'ils connaissaient, aimaient, étaient passionnés par le cinéma d'Alain Cavalier. En fait, le dispositif, c'était simplement de proposer aux auteurs qui avaient publié dans la revue, ou en tant qu'auteur ou traducteur, de répondre à un appel qui était le suivant, enfin, qui était en fait une série de propositions, d'hypothèses et notamment celle-ci, c'est-à-dire qu'il nous semblait que dans un certain nombre de films d'Alain Cavalier, la voix d'Alain Cavalier,
qu'on n'a pas encore entendu mais qu'on va pas tarder à entendre,
que j'ai hâte d'entendre, et la manière dont cette voix se pose sur les images et rejoue les images, nous semblait pour le dire rapidement, des formes poétiques particulièrement stimulantes et en tout cas qui pouvaient être aussi des déclencheurs d'écriture pour des auteurs, pour des poètes. Donc en fait, on a envoyé, c'est passé par un mailing à ces personnes qui étaient réunies autour de nous. Et on a aussi mis dans ce mail des liens vers des films qui sont accessibles sur Internet, en se disant que peut-être pour certains, ce seraient les premières images d'Alain Cavalier qu'ils verraient.
Je me tourne donc vers l'intéressé, Alain Cavallier, en tout cas vers la voix d'Alain Cavallier. Comment est-ce que vous avez reçu cette proposition, regardé cet objet et ce lien qu'évoquait à l'instant Marie de Quatrebarbe avec votre cinéma, ou en tout cas l'idée d'une image poétique qui passerait justement par cette voix posée sur les images.
J'ai jamais eu beaucoup de problèmes avec la poésie, parce que quand j'étais pensionnaire et quand j'étais enfant, la poésie faisait partie de notre vie quotidienne, puisque moi j'ai traduit Homère quand j'ai fait du grec. J'ai lu les évangiles parce que j'étais chez les curés. Donc c'était un texte complètement fou, donc très décalé, et une histoire de l'esprit assez incroyable. Et puis comme on avait beaucoup de temps, on lisait les poètes. Moi j'ai lu Baudelaire quand j'avais 13-14 ans quand même. Et ça m'a fait... j'y ai pris ce que je pouvais y prendre.
C'est-à-dire ?
Mais par exemple la Charogne m'a complètement bouleversé quand j'avais 13 ans.
Il y a aussi, je crois, une histoire par rapport à Baudelaire, une histoire de vers extraits des phares, je crois, qui se trouve sur le socle d'une statue au Luxembourg.
C'est vraiment, Seigneur, le meilleur témoignage que nous puissions donner de notre dignité, que cet ardent sanglot qui roule d'âge en âge et vient mourir au bord de votre éternité. Il y avait une statue de Baudelaire coupée là, sectionnée là, à la poitrine, affreuse, un socle immense, et là-dessus, il y avait ces vers. Et je peux vous dire que ça vous transporte très très loin, quand même.
Que vous avez fini par glisser
Alors, j'ai fini par, effectivement, ne me paraît pas des plumes du paon. Quand vous mettez ça dans votre film, tout de suite, il s'envole un petit peu, et il plane un petit peu.
Vous avez demandé, Marie de Quatrebarbe, à entendre non pas une voix, ni un texte, ni un extrait de film d'Alain Cavallier d'ailleurs, mais un paysage sonore. Et ce paysage, c'est celui-ci, tendez bien l'oreille. Et Alain Cavallier ferme les yeux. Afternoon Storm, extrait légèrement remonté de l'album Caratinga de Douglas Kin. Je ne sais pas si je le prononce bien. Qu'est-ce que vous vouliez nous faire entendre, Marie de Quatrebarbe ? Qu'est-ce que vous y entendez ?
Ce que j'entends à travers ces captations de Douglas Kin, c'est en fait des écosystèmes au sein desquels les êtres, les présences sont à plat, sont horizontales et en même temps produisent toute une série de petits mondes. Il y a plein de petits mondes dans cet album. Là, c'est une forêt brésilienne. Et en fait, moi, quand je vois des films d'Alain Cavadier, j'ai un sentiment assez similaire, en fait, d'assister à une écriture cinématographique qui produit des écosystèmes de monde. Voilà, tout simplement. Ça, voilà, c'était une sorte de petit écho, peut-être, au paradis.
Qu'est-ce que vous y entendez-vous, Alain Cavadier ? Je vous ai vu fermer les yeux.
Oui, des écosystèmes, c'est-à-dire Le Paradis, c'est un film, c'est une succession d'images et de sensations tout à fait personnelles, mais filmées quand même pour partager avec le public, mais qui reste très personnel. Donc c'est un système très particulier, comme les sons d'une forêt ou d'une plaine ou d'une ville. Et il n'y a pas d'histoire, mais en même temps, il y a l'histoire de l'émotion de quelqu'un qui va vers quelque chose. Donc on peut parler d'un écosystème, hein, parce que c'est très particulier en fait. Mais ça tend vers quand même être partagé, donc avoir quelque chose un peu général. Hein.
Il y a parfois même d'ailleurs quelques adresses directes au spectateur en tout cas.
Je m'adresse au spectateur quelquefois et je le tutoie.
Alors, faire d'Alain Cavalier un compagnon ou un objet d'écriture dans une revue de poésie, c'est potentiellement aussi évoquer un lien entre une pratique cinématographique et une pratique littéraire. Et pourtant, ce lien, Alain Cavalier, chez vous, il est fondateur, certes, mais conflictuel. Hein, vous qui avez été élevé dans l'écrit, vous l'avez dit, hein, la Genèse, les Évangiles, Homère, à 7 ans, dites-vous, dans le film, hein, Le Paradis, justement, on vous apprend le latin, les Évangiles, le grec, pour lire l'Odyssée, et puis après, on vous lâche la tête farcie d'images folles. Hein. Il a fallu commencer, dites-vous, par mettre l'écrit à mort. Est-ce que faire du cinéma, c'était ça, d'abord pour vous, en finir avec la littérature, avec l'écrit, ou en tout cas battre la littérature, qu'est-ce qu'elle vous avait fait pour qu'il faille la mettre à mort ?
C'est que c'était quand même un langage qui avait 3000 ans et qui avait des références. Hein. C'est-à-dire, on prononçait un mot et il y avait un écho chez celui qui l'entendait. Hein. C'est-à-dire qu'une image ne repose sur aucune règle, sur aucune notation. Donc elle va un peu à l'aventure, hein, elle va un peu à l'aventure. Et se rassurer, c'est y mettre un mot connu, vous y mettez justice, amour, partage, ce que vous voulez. À ce moment-là, ça complète et ça donne une surface à l'image qu'elle n'a pas en naissant. Elle est assez pauvre, elle est assez documentaire sur un visage, sur un... Donc y a une méfiance de l'image, elle est incomplète. Et puis petit à petit, on s'aperçoit que l'image est peut-être magnifique et accompagnée d'un son, d'une parole prise un peu comme ça, pas trop fabriquée à l'avance. On peut être un peu strictement cinématographique et pas faire trop d'emprunts à la littérature, à la musique et à la peinture. Parce que le cinéma, c'est beaucoup nourri de tout ça. Chercher un peu d'autonomie, un peu de liberté, un peu de dignité, quoi.
Et un peu de danger, sans doute.
Et un peu de danger, quand même. S'aventurer dans des endroits où, d'habitude, le cinéma ne va pas. Quand il n'y a pas d'acteur, quand il n'y a pas de récit, quand il n'y a pas d'exécution d'un projet, on est dans le vide un petit peu, mais c'est comme ça qu'on construit le film, petit à petit. Comme il vient, alors, au lieu d'avoir 6 semaines de tournage avec une équipe et on peut passer 1 an ou 2 ans ou 3 ans à faire un film.
Qu'est-ce que c'est, Alain Cavalier, que ces images folles hein, dont on vous a farci la tête ?
Je ne sais pas, c'est Jésus qui marche sur l'eau ou c'est Ulysse qui est amoureux dans une île d'une femme qui le comble totalement et dont il n'arrive pas à se sortir, qui lui propose l'immortalité et qui la refuse. Alors, quand vous lisez ça, vous êtes pratiquement un enfant, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quand même très mystérieux, il fallait chercher. Hein ? On passe sa vie à aller chercher ce que ça veut dire.
Donc ça veut dire qu'au fond, ces images folles, vous n'avez cessé de leur chercher une représentation, donc vous ne vous en êtes jamais détaché. Au fond, le paradis, c'est ce film-là, Le Paradis, c'est ça aussi.
C'est
trouver une représentation à ces images folles.
C'est avec ça que je laboure et que j'ensemence mon petit territoire, mon petit terreau, mon petit champ.
Vous dites d'ailleurs dans l'entretien à la Cavalier, je suis hélas un homme libre. Et vous dites hélas, je suis un homme libre.
Hélas parce que au lieu d'avoir...
Qu'est-ce que vous auriez aimé être
hein, J'aurais aimé être avec peu de livres et une caméra immédiatement.
Vous êtes né trop tôt.
Je suis né trop tôt pour le cinéma. J'ai commencé le cinéma dans son moment le plus difficile, où la caméra était énorme, où il y avait beaucoup de gens pour fabriquer un film. Et heureusement, à l'aube de ma dernière période, est née la caméra dans la main, très simple, très rapide, pour répondre à l'émotion du moment et à l'exécution cinématographique quasi immédiate. Sans téléphoner à un producteur, à un opérateur, à un ingénieur du son et à Kodak.
Sans cet outil-là, vous auriez arrêté le cinéma ?
Je me serais posé des problèmes extrêmement sérieux et je serais devenu bêtement drastique, c'est-à-dire que j'aurais mis une caméra dans une pièce, je me serais installé avec deux personnes et j'aurais dépensé l'argent à payer la caméra. Ce qui aurait été absurde, mais j'aurais fini comme ça, quoi, bêtement.
Bêtement. Pour en revenir à la question de l'écriture, qui est quand même celle qui nous occupe aujourd'hui, et sur ce rapport à l'écriture, qui est quand même un rapport de violence, en tout cas quand on vous entend dans les nombreux entretiens, parce qu'il n'y a pas que l'entretien de la tête et les corps, mais dans les nombreux entretiens que vous avez pu donner, il y a quand même une sorte de rapport un peu violent à l'écriture, en tout cas l'idée d'entrer en cinéma, peut-être contre l'écrit, ça j'en sais rien, ou en tout cas à la place de l'écrit. Comment est-ce qu'il faut voir ce rapport ?
C'est-à-dire que, en fait, le problème est un peu trop ramassé. C'est que, en réalité, moi, je filme tous les jours, mais j'écris tous les jours aussi. Et à la fin de ma journée, j'écris sur une petite page de ce qui m'est arrivé dans la journée, et qui est infilmable. Donc, il y a une partie qui est réservée aux mots et une partie qui est réservée aux images et aux sons. Et ce qui est infilmable, ça pourrait l'être. C'est-à-dire des personnes que vous rencontrez, que vous avez envie de... Mais il n'est pas question de sortir votre caméra, sinon vous recevez une gifle. Ou ça serait des choses que vous voudriez mettre en route personnellement et qui sont totalement condamnables, vous voyez, et qui sont... Des jardins secrets qu'il est impossible de publier, vous voyez. Donc, déjà, quand vous enlevez tout ça, hein, il vous reste, je ne dis pas peu de choses, mais un terrain assez limité. Alors, vous compensez cette limite en... Sur l'écrit, vous pouvez raconter absolument tout, des horreurs, des choses extraordinaires, ou alors des choses infilmables, parce qu'il vous faudrait une fortune pour les réaliser, pour les mettre dans votre caméra, quoi.
C'est-à-dire que vous écrivez par défaut ? Vous écrivez ce que vous ne pouvez pas filmer ?
Oui, et puis en même temps, comme c'est une discipline que j'ai eue quand j'étais petit, ça reste quand même une pratique. Hein, ça reste une pratique. Et avoir de temps en temps, quand je relis mon journal, de temps en temps, il y a une phrase qui est littérairement assez forte, qui condense une situation que j'ai vécue, que j'ai écrite, et ça laisse une trace quand même superbe. Alors je peux me réconcilier quand même un peu avec les mots.
On parlait de ces écrits qui vous ont construit, hein, donc qui ont construit votre enfance, et cette enfance, elle est infiniment là, dans Le Paradis, hein, ce film dont vous parlez en particulier dans La tête et les cornes. Une heure dans votre œil, dans vos mains, dans votre voix, qui s'ouvre sur la mort d'un bébé pan et qui s'achève sur plus ou moins sur Lester Young et sur votre image captée dans un reflet et votre voix murmurant « Tout va bien ». Et dans ce film, il est question, donc, on l'a dit, de tout ce qui vous a construit, hein, Genèse, Évangile, la violence du sacrifice d'Abraham, hein, la figure du Christ, celle du Lys, on vous suit. On y suit délicatement quelques références plus ou moins secrètes, hein, le dormeur du Val, tout de suite, même dès la première phrase, et même une brève évocation de ça.
J'ai couru dans la nuit vers une humble chaumière, j'ai couru dans la nuit de printemps, vers le seuil où tremblait une faible lumière, la porte fait pousser le battant. Et c'est là que, madame, je vous ai vu sourire, endormie dans un rêve si léger, qu'à mon tour, j'ai cru bon de rêver pour pour vous dire ces mots qui voltigeaient. Bonsoir, jolie madame, je suis venu vous dire bonsoir. Tout simplement, je ne réclame qu'un peu d'espoir. Espoir d'une visite, reviendrez-vous, tout vous attend dans ma maison. Revenez vite, c'est le printemps. Demain, par la fenêtre ouverte, la rivière vous fera les doux yeux. Demain, la nature est offerte au soleil qui luit dans vos cheveux. Bonsoir, jolie madame, reviendrez-vous au rendez-vous où le printemps vous met dans l'âme un désir fou. Par la fenêtre ouverte, la rivière vous fera les doux yeux. Demain, la nature est offerte au soleil qui luit dans vos cheveux. Bonsoir, jolie madame, reviendrez-vous.
Quand vous glissez, Alain Cavalier, dans Le Paradis, une évocation d'une chanson, là, en l'occurrence, Bonsoir, jolie madame, Charles Trenet, qui date de 41, je crois, vous deviez avoir 10 ans, ou quand vous glissez un vers du Dormeur du Val de Rimbaud, c'est moins le poème qu'un souvenir de poème que vous glissez, un bout d'enfance.
Ah non, c'est parce que je trouve ça parfait, je veux dire. Bonsoir, jolie madame, reviendrez-vous quand le printemps vous met dans l'âme un désir fou. Je trouve que c'est beaucoup mieux que beaucoup de poésie officielle écrite. Hein ?
Alors, à propos d'écrit Alain Cavalier et de pages blanches ou de notes, d'ailleurs, j'ai vu que vous aviez une petite page blanche sur laquelle vous avez déjà commencé à noter des choses. On écoute un montage de Lettres d'un cinéaste, qui est ce court film de 12 minutes, Le temps d'une bobine. On est en 1982.
Ça pourrait être un écran dans une salle. Et là, ça n'est pas un, c'est une feuille de papier. Je suis metteur en scène de film et j'écris mon scénario. Donc, le film sera projeté sur cet écran dans des mois et des mois. Et pour l'instant, il faut que j'écrive. J'ai l'habitude de bouger. Mon travail, c'est d'être debout et d'être actif et de parler avec des tas de gens. En réalité, en ce moment et pendant des semaines et des semaines, il faut que j'écrive sur cette feuille de papier. Je ne suis pas écrivain. Et pourtant, je ne peux pas faire autrement. Alors, je coupe. Cette feuille de papier en deux, je la coupe pas, je la plie en deux. Et puis, à gauche, je vais écrire le son, à l'image plutôt, et à droite, le son. Description de l'image, le son, dialogue, musique, éventuellement bruit expressif. En fait, c'est le trac. Quand ça marche bien, c'est assez simple, c'est assez gai même. J'arrive à projeter sur cette feuille de papier, en faire un écran, et à projeter le plan que je tournerai plus tard. Là, Thérèse est à l'infirmerie, est étendue sur son lit. Voilà. Sa sœur est assise sur un tabouret à côté d'elle. Là, il y a la porte où le médecin entrera tout à l'heure pour lui faire des pointes de feu. Et Thérèse sort son pied de dessous les draps, son pied nu, et caresse la joue de sa sœur. Et elle lui dit « Je ne vous ai jamais donné une aussi grande preuve d'amour. » Elle ne me manquait pas d'humour, ça. encore la blancheur de la feuille. L'immobilité, le silence, la solitude. Alors que le cinéma, c'est la couleur, le mouvement, le bruit, le travail de groupe. Cet après-midi est vraiment un désert.
Alors, c'est un extrait doublement amputé, parce que c'est remonté, et surtout, nous sommes évidemment privés de l'image. C'est douloureux pour vous d'être privé de l'image, hein, parce que vous avez l'air tellement surpris.
Ça fait bizarre. Et puis comme ma voix est beaucoup plus jeune qu'aujourd'hui, étant donné que ça, je ne sais pas, 37 ans, 35 ans, donc je reconnais pas très bien le, hein, c'est pas moi, hein, ce n'est plus moi, c'est très marrant.
Alors, ça n'est plus vous, sans doute ne diriez-vous plus d'ailleurs la même chose, hein, aujourd'hui.
Sans doute, oui.
Sur cette question, justement, de la blancheur de la feuille, parce que vous n'écrivez plus de script depuis très longtemps, depuis 25 ans, oui, déjà.
Je suis très fier. Mon producteur me demande toujours, c'est le même, toujours depuis 25 ans, et je déjeune avec lui. Je lui raconte ce que, grosso modo, j'ai envie de faire. Non pas ce que je vais faire, mais ce que j'ai le désir de travailler. Et puis, si ça lui plaît, il me dit oui pendant le déjeuner. Et il me dit, soyez gentil, faites-moi une page quand même, que j'aille voir une chaîne avec quand même une chaîne de télévision. J'ai fait une page très concentré, où je mets un peu n'importe quoi, mais avec un petit chic un peu cultu quand même pour que ça fonctionne.
Par exemple, qu'est-ce que c'est que cette technique
d'exemple, je ne donnerai pas d'exemple. Et il va avec ça, il trouve un petit peu d'argent parce que c'est pas cher. Hein, et je m'aperçois quand le film est terminé que c'est exactement ce que j'avais écrit. Pas sous la même forme, mais dans l'esprit, dans le cœur de la chose, j'avais dit ce que réellement, j'avais réussi à écrire ce qui réellement me préoccupait, quoi.
Et ne pas croire au script, qu'est-ce que ça dirait au fond de ce qui vous fait prendre la caméra?
C'est simplement que vous écrivez une histoire et puis à la fin, le mari tue l'amant de sa femme, hein, et vous commencez à tourner et on connaît la fin. Alors quand vous vivez, vous vous levez le matin, vous savez pas comment la journée va se terminer, hein. Alors vous commettez déjà, je veux dire, une atteinte à la vie. Hein. Alors toute l'équipe, tous les comédiens, tout ça, ne pense qu'à une chose, il faut qu'à la fin, il arrive à la tuer bien et que le spectateur y croit. Alors tout est concentré là-dessus. Alors que si moi je veux tuer ma femme qui m'a trompé, je vais descendre au bistrot peut-être, causer avec un type, l'oublier, et puis, je vais faire pipi et repenser, ah oui, il faut que je tue ma femme, et je finirai par y arriver. Mais c'est ça qui est drôle, hein? C'est que ça soit mélangé à autre chose. Mais dans les films, c'est toujours, pouf, hein? Il faut aller au but et empaumer le spectateur correctement.
Pourtant, voilà. Vous avez commencé par là?
Je l'ai fait, mais très consciemment, avec les recettes que j'avais puisées dans mon éducation, qu'elle soit de Fédot ou des tragiques grecs, parce que tout est là-dedans. Et puis à un moment, je me suis dit, je vais pas faire ça toute ma vie, simplement. Hein, je vais pas demander aux comédiens d'être parfaits, d'être dans leur carrière une étape, hein, une marche, hein, de soigner leur visage pour que je me fasse pas engueuler, parce que c'est un métier, hein, de vendre des visages et des corps glorieux aux spectateurs, c'est un boulot. Hein, on vous paye pour ça. Alors tout ça, j'ai analysé tout ça, ça coûte très cher, etc., etc. Et puis je me suis retiré de ce cinéma-là et j'ai petit à petit bâti ce qui était nécessaire pour que je sois libre et que j'ai le temps de fabriquer mes films comme je veux.
Ça veut dire qu'au départ, il y avait peut-être des, malgré tout, des prétentions littéraires à votre premier cinéma? Voire théâtral, ce qui serait pire.
C'est-à-dire que quand vous écrivez un scénario de 80 pages, et c'est pour avoir de l'argent, il faut qu'il soit bien écrit quand même, sinon les gens le lisent pas. Et quelquefois ils le donnent à lire à leur femme ou à leur concierge, et les gens lisent ça comme un livre. Hein? Alors c'est bon ou c'est pas bon, les dialogues sont bons ou pas bons. Mais les dialogues, ça se fait dans la vie, dans la journée, comme ça. Moi, je suis venu vous voir, je ne savais même pas ce que vous alliez me demander. Hein?
Vous ne le savez toujours pas, d'ailleurs.
D'ailleurs, je ne sais pas toujours pas. Alors, j'ai pris des petits points de repère dont je ne me servirai absolument pas.
Lucie Taïem, vous comprenez ce que dit Alain Cavalier, justement, enfin, dans la façon dont ça pourrait se rapporter, au fond, au processus même d'écriture.
Oui, c'est ce que j'étais en train de me dire. C'est qu'on se pose à peu près, on se pose des questions proches, en fait, je crois, et aussi dans tout au début, quand Alain Cavalier parlait de ce rapport, d'aller chercher des petites choses ou dans le quotidien, ou je me disais, c'est un peu comme ça que se fait un poème ou que peut se faire un poème. Et je pensais à une distinction entre le roman qui va s'écrire avec l'intrigue et le cinéma à scénario et puis ensuite les choses filmées au quotidien qui ressembleraient au poème. Mais là, je crois que c'est juste une question de modalité d'écriture et de rapport qu'on entretient à la chose qu'on fait. Et de savoir si on veut être dans un plan où finalement peut-être moins de choses vont pouvoir arriver, venir se greffer de l'extérieur, il y aura moins d'accidents. Ou alors essayer d'écrire, mais je pense que ça peut être aussi pour le roman, pour la prose, la même chose. Essayer d'écrire sans savoir où on va, et là de laisser des accidents arriver, de laisser se faire des choses. C'est ce que ça m'évoquait, je ne sais pas si c'est...
C'est pareil pour vous, Marie de Quatre-Vingts, parce qu'en fait il y a l'idée, mais on va y revenir après, mais peut-être l'idée aussi de l'attente, au fond, d'attendre que ça advienne.
Oui, mais après on peut attendre de différentes manières. On peut attendre en écrivant d'autres choses, on peut attendre en lisant, on peut attendre en traduisant. En fait, ce qui compte, de mon point de vue, ce qui rend active la matière, c'est la capacité de bifurcation. C'est-à-dire, on peut se donner un milliard de, je sais pas, de balises, des objectifs très précis, pourquoi pas. Mais jusqu'à quel point on va être surpris en route et on va prendre des chemins absolument qui n'étaient pas prévus et on va rencontrer le loup, voilà.
En fait, le loup, moi, elle vient de prononcer le mot loup, donc j'ai un petit poème de Marie de Quatre-Barbes à lire, hein.
Je vous en prie.
C'est assez court, je peux.
Bien
je
sûr,
peux.
Avec plaisir.
Et qui commence par une alerte à nous, hein, qui s'appelle « Je dis... » Bougez pas, messieurs. On s'en lasse, putain, on s'en lasse. On s'en tord les mains, mais putain, qu'est-ce qu'on s'en lasse. J'ai fait l'expérience, la face obstruée de la lune, mais le corps de l'absence n'y est plus. Tous, ils sont là à vouloir le lui dire, prends le temps de fondre avec les choses, elles ne meurent jamais vraiment. Il n'y a pas d'autre déchirure, la perle goûte sans eau sexe. Tu l'imagines encore cette nuit, cette frousse, la fille seule en peignoir et qui connaît déjà la fin. L'histoire sans chandelle, il est 4 heures du matin, elle lève les yeux, un peu ivre de la nuit, à 2 pas du foyer vers un soleil plus tangible. J'entends les bras du secret. Alors évidemment, il y a une histoire derrière. Hein, et chacun se raconte celle qu'il a envie de se raconter. Mais on ne demandera pas à Marie quelle est la vraie histoire. Hein.
On ne lui demandera pas. Non, on ne lui demandera pas.
J'ai peur que ce soit un peu confidentiel.
Est-ce que vous pouvez juste nous dire d'où est extrait ce
Alors,
poème
Alors, ça s'appelle « La vie, moins une minute », qui est un titre magnifique. Hein. De Marie de Quatre-Barbes. Marie de, et plus loin, Quatre-Barbes d'un seul mot.
Alors, écriture, toujours. Peut-être que, alors même si vous dites que rien n'est plus éloigné du geste de l'écriture que le geste du cinéma, Alain Cavalier, reste quand même la question du montage, hein, qui est encore autre chose. Et à propos de montage, on écoute ça.
Vous vous arrêtez ?
Pourquoi m'avez-vous laissé seule avec Antoine ?
Je pensais qu'il vous amusait.
c'est tout.
Les premières secondes de Elle seule, Elle virgule seule, un court-métrage ou remontage de La Chamane avec Catherine Deneuve, donc le film de 1968. Et ce remontage-là, on entend d'ailleurs, hein, vraiment, c'est un montage vraiment cut, quoi. Ce remontage-là essore d'une certaine façon le film en gardant que des plans dans lesquels Catherine Deneuve est présente. Un visage, un bras, une main, un poignet d'ailleurs, avec un plan magnifique, enfin là, que j'ai en tête tout d'un coup, que vous signalez d'ailleurs, hein, Marie de Quatre-Barbe, cet exercice-là, hein, celui du remontage de La Chamane dans la revue dont on parle en ce moment. Qu'est-ce que ce court-métrage-là, Alain Cavalier, cet exercice d'épure, voulait dire ou venait dire? Est-ce que c'était une façon de rompre avec le cinéma de La Chamane, son scénario, son théâtre, sa narration, hein, tout ce dont on vient de parler à l'instant? Ou est-ce que c'était dire mieux, dire autrement ce que vous cherchiez à l'époque, déjà, en filmant ce corps glorieux, justement, de Catherine Deneuve,
hein? C'est-à-dire, le film fait 100 minutes. Sur 100 minutes, il y a quand même pas mal de clichés, disons. Des clichés naturels du cinéma que vous faites plus ou moins bien, hein, que vous arrangez plus ou moins à votre sauce. Alors je me suis dit, mais c'est bizarre, parce qu'on pourrait quand même un peu... les poèmes, c'est assez resserré, il y a une densité dans les poèmes qui en fait la force, et qui leur permet de traverser les siècles et les siècles, c'est la densité. Hein. Alors je me suis amusé à essayer de raconter exactement la même histoire, uniquement sur Catherine Deneuve, en 10 minutes, c'est 10% du film, et c'est parfait, l'histoire est parfaitement claire, l'histoire est magnifique, et je me demande si c'est pas un peu meilleur quand même que les 100 minutes.
Remonter autour d'elle, recadrer autour de Catherine Deneuve, est-ce que ça relève, est-ce que ça pourrait relever du même geste, au fond, que celui de cadrer au plus près, comme vous le faites? Toujours, souvent, hein, au plus près d'une main, au plus près d'une feuille, d'un objet, d'un détail, d'une pierre. Donc, resserrer le cadre, hein, ça c'est ce que vous faites. Là, c'était resserrer le film, donc tout ça nous amène évidemment vers l'épure. Mais est-ce qu'au fond, les gestes-là, les deux gestes-là, étaient relevés de la même chose?
Oui, parce que moi, je suis toujours obsédé par une chose, c'est que les images dans les films, c'est trop riche.
Il y a trop à voir.
Oui, on voit quelqu'un qui marche et tout d'un coup il y a une rue derrière, il y a des voitures, il y a d'autres personnes, on entre dans des cafés, il y a une surcharge à mon avis énorme pour moi, hein, pour moi. Alors naturellement dans mes films, je filme, je centre. Voilà, je centre sur une main, c'est déjà énorme, hein, une main déjà ça, il y a une décharge atomique fantastique, alors ça me suffit. Ben, je suis peut-être pas très difficile.
Lucie Taïeb, vous centrez, vous aussi?
Non, mais ce que j'entends, c'est la question de l'intensité, en fait. Enfin, on supporte les images chargées parce qu'on ne voit pas grand-chose, finalement, et parce qu'il ne se passe pas grand-chose. Alors que si l'image nous montre une main, là, on peut percevoir ce qu'elle a d'atomique. C'est une question d'intensité du regard aussi, qui va conditionner l'intensité de réception, en tout cas. Enfin... Quand on regarde les films.
Oui, parce que par exemple, dans le frais cresson bleu, il y a, c'est une concentration terrible. Le frais, d'abord frais, il y a frais. Le cresson, qu'est-ce que vient foutre le cresson là-dedans, hein? Et puis bleu, le cresson, il n'est pas bleu, il est vert. Hein? Alors, il y a une information qui est énorme et qui a une force immédiate, absolue.
Et que vous associez donc à la mort du pan dans les premières images du film Le Paradis, Alain Cavalier. Lucie Taïeb, quelles ont été, vous, vos premières images, premières pistes, justement, quand Marie de Quatre-Barbe vous a proposé d'écrire Dans la tête et les cornes avec Alain Cavalier?
En fait, j'avais vu Thérèse à sa sortie. Et
86, non 5, 6.
Oui.
Oui. Oui.
T'étais petite, hein?
J'étais petite.
Oui, pas très grande.
Non, j'avais une maman qui m'emmenait au cinéma, quel que soit le film. On sortait quelquefois de la salle, mais c'était rare. Là, on n'est pas sortis. Et ça m'avait beaucoup, beaucoup impressionnée. Donc j'avais ce souvenir-là. J'avais aussi un souvenir fort du paradis, mais justement, je voulais pas écrire sur, et je savais pas... Je lis le début du texte. Ouais. Mon héros absolu, mon adoré, mon frère baisable. Dormir, baiser, chier. Y restant des heures. Pour qui j'écrivais dans sa langue un conte de gazelle, il était lion. Et de trou du cul, sage. Son œil était bleu et bleu étaient ses nuits. Il restait longtemps en chiottes, se taisant, n'ayant pas même l'intuition de cette tristesse, de cette perte répétée. Sans tête et insouciant, lisant le journal, chantonnant doucement. Triste, son trou du cul regardait l'eau légèrement troublée et savait combien légère et troublée la vie après la délivrance. Son trou du cul était sage.
Ah, c'est magnifique. Merci. Oh. Et alors, c'est de vous ou c'est une traduction?
Je me suis auto-traduit exceptionnellement.
Ah, vous êtes auto-traduit. Vous êtes portugaise? Vous êtes portugaise?
Pas du tout. Ça vient de l'allemand. Je l'avais écrit en allemand.
Ah, vous écrivez en allemand. Ouais. Ah, vous êtes bilingue. Vous êtes. Ah. Oh, mais oui, mais je me souviens très bien de ça. Mais je n'avais pas vu d'où ça venait exactement.
Ouais, il faut lire.
Ah, vous l'avez écrit en allemand et vous êtes traduit.
En allemand, je n'aurais jamais osé l'écrire en français directement.
Oh. Vous avez osé le lire en français.
Alors, non. Vous voyez, j'aurais eu cette idée-là, hein, filmer. Ça pose un problème de filmer ça, hein, si vous êtes cinéaste.
Vous écoutez France Culture, Poésie et ainsi de suite, par Manu Farine.
Votre nom, s'il vous plaît ?
Tatiana Dohan.
Très bien. Vous êtes restauratrice de tapisserie. Vous travaillez dans la maison Brocard. Et vous travaillez sur une tapisserie qui est là depuis 10 ans. Vous travaillez dedans depuis 10 ans. Elle, on n'en voit qu'un petit morceau, mais elle fait 35 mètres carrés. Et elle date, elle a été fabriquée en 1600 et quelques. On l'appelle la tapisserie de Ferrare. Et votre nom ?
Tellier Muriel. Muriel.
Et vous êtes bordeuse ?
Oui. Hein ?
Et vous rénovez en ce moment un vieux canapé, le tissu d'un vieux canapé ?
Oui, du palais de Compiègne.
Et vous ne vous piquez pas trop les doigts ?
Non, ah si, assez quand même. Hein ? Oui.
Et vous avez fait des études ?
Oui, j'ai fait un CAP de 3 ans.
3 ans. Et vos yeux ?
Moi, pour l'instant, ça va, sinon...
Vous porterez un jour des lunettes ?
Oui.
C'est sûr ? Oui. Vous avez quel âge, s'il vous plaît ?
23 ans.
23 ans. Et vous réparez un vieux fauteuil ?
Oui.
Pour le Sénat ?
Oui.
Ça sera un vieux sénateur qui s'assoira dessus. Oui. Ça, c'est pour la broderie. La lame d'or.
Excusez-moi, vous avez bougé votre main gauche, là.
Oui, je suis obligée. Hein.
Alors, pour la broderie à la lame d'or, on utilise une aiguille à double chat, là. Vous pouvez tirer un petit peu sur le... Et ça bloque. Votre nom ?
Evelyne Grandjouteau.
Vous êtes ?
Brodeuse d'or.
Et c'est un... C'est un rideau de lit, en fait.
Oui, de la chambre de l'impératrice Marie-Louise à Compiègne.
Alors, il fallait qu'on la voie bien, qu'elle voie ça bien à l'intérieur et qu'à l'extérieur, ça soit aussi beau. Donc, vous pouvez nous montrer vos coulisses, là, soulever le métier, pour que le spectateur voit que c'est aussi beau à l'envers qu'à l'endroit.
L'un des 24 portraits réalisés entre la fin des années 80 et le début des années 90, hein, 24 portraits, très courts, de 13 minutes, je crois, chacun, qui sont tous consacrés à des métiers disparus.
En fait, en voyant la brodeuse, ce qui s'est passé, c'est que le film me touchait. Et aussi la relation qui était instaurée avec les personnes, les femmes qui étaient filmées, que je trouvais très... très, très douce, où je parle de tendresse, je crois, mais en même temps, et j'étais surprise, ça a suscité des souvenirs aussi parce que c'est filmé dans les années 80,
oui.
Et ça a suscité justement des souvenirs d'enfance. Vous savez, c'est comme ce détail d'une photo qui fait que la photo vous marque, et moi je me suis
concentrée sur ce carnet que Madame Brocard montre.
Oui, oui, oui.
Parce que ça me rappelait quelque chose de personnel. Et j'ai écrit avec ces souvenirs-là, avec les souvenirs que suscitait le film, celui-ci, et puis l'autre de la Dame Lavabo, je ne sais plus comment elle est appelée exactement, qui me rappelait aussi d'autres souvenirs.
Cette question-là, c'est-à-dire la question de la présence du cinéaste, de la présence du corps du cinéaste, de la présence de la voix du cinéaste, et donc au fond la question aussi du jeu, à quel moment elle finit par arriver, ou elle finit par trouver les outils qui lui permettent de le faire, Alain Cavalier.
Vous voulez dire comment c'est entré un peu dans mon
comment cette question-là s'est posée à vous,
oui.
Et
elle ne s'est jamais posée, c'est-à-dire qu'elle a été nécessaire. Quand je faisais ces portraits, je les faisais en une journée pour que ne pas avoir de repentir des dames, parce que effrayée de ce qu'elle a dit la veille, elle est prête à dire le contraire le lendemain.
Pas de
après
rature.
Avoir pas de rature. Et j'avais 13 minutes à assurer de définitif dans la journée. Et j'arrivais quelquefois à 4-5 heures du soir et j'avais fait 7-8 minutes. Il me restait 4 minutes à faire avant la fin de leur travail, parce que c'était cadré sur leur temps de travail. Alors, je suis rentré pour accélérer un petit peu, résumer un petit peu ce qu'elle allait expliquer, que je connaissais. Et je suis rentré et j'ai fini par le laisser au montage. Parce que j'avais juste la matière pour faire les 13 minutes. Et puis après, je me suis dit que finalement, c'était une façon de regarder la vie et de la proposer aux autres, qui n'était pas si mal que ça. On mélange un peu le travail avec eux. Et puis, ça a pris des développements, et c'est fini par entrer dans ma façon de filmer. Voilà. Et c'est infini comme variation.
Cette façon de filmer, Alain Cavalier, c'est... puisqu'on parlait justement de la prise de parole au jeu, hein, qui a fini par être nécessaire et qui a fini par s'installer vraiment dans votre cinéma. Est-ce que c'est la meilleure façon de vous connaître, hein ?
Je pense pas peut-être de me connaître, mais je pense que quand un spectateur sent qu'un film est en... c'est la voix et c'est l'œil du cinéaste, et qu'il a le cinéaste presque dans l'oreille et dans l'œil, c'est-à-dire qu'il est presque à la place du cinéaste, il a une sensation différente que lorsqu'il est devant un spectacle objectivement raconté, où on ne sait pas où est la place de la caméra et qui la place. Hein. Ça ne fait pas partie du récit. Tandis que là, je rejoins simplement la littérature. Et moi, la littérature qui m'a fasciné, c'est la littérature à la première personne. C'est Saint-Simon, c'est Rousseau. C'est les mémoires d'outre-tombe, c'est à la recherche du temps perdu, et tout ça, ce sont des expériences personnelles qui utilisent le mot pour les communiquer à d'autres personnes. Hein,
c'est pas autre chose. Un gros jeu, Rousseau, hein, accessoirement, une grosse prise de parole au jeu.
Saint-Simon, il ne parle que de lui, évidemment il parle des autres, mais en fait il ne parle que de lui. Et tout ça est à la première personne, et le cinéma a commencé où la première personne n'existait pas. Alors qu'elle existait littérairement depuis, en France, depuis Saint-Simon. Et seul le matériel, l'arrivée des caméras maniables, et qu'on avait, moi je filmais comme ça, avec la caméra dans mon œilleton. Et le micro, il est là, juste devant, sous l'objectif. Donc de temps en temps, je parlais, et c'est une voix complètement confidentielle. Je parlais dans l'oreille du spectateur, en fait, sans m'en rendre compte. Et il reçoit ça dans la salle, absolument comme si j'étais à côté de lui. C'est le contraire de tous les films qu'on voit. Enfin, de tous les films formatés pour assurer un récit et capter l'attention du public. Ce qui est vachement bien. Moi, j'adore ces films-là. Je les ai faits, au fait, aussi.
Et vous allez toujours les voir ?
Oui, absolument. Et le charme est moins grand, quand même. Parce que je prévois, quand même, ce qui va se passer. Hein ? C'est toujours les mêmes histoires qui sont recyclées. On est quand même plus malin, souvent, que le cinéaste.
Alors, ces images, le spectateur les reçoit, Alain Cavalier, mais vous, vous les recevez aussi. Hein. C'est aussi ce qui vous distingue de la littérature, enfin, en tout cas, du geste d'écriture, d'une certaine manière. C'est-à-dire que l'écriture vient après, le film, c'est pendant. Est-ce que ça veut dire que pour vous, tant que ça n'est pas filmé, ça n'existe pas ?
Non, mais par exemple, si je prends l'exemple de ma journée... Comme je suis cinéaste, j'ai un défaut de professionnel, c'est que Je ne regarde pas, je filme. Là, j'ai tout filmé. Je vois ces messieurs dans le fond, là. Et puis moi, je fais un panoramique sur vous, je me tombe sur vous, je vois le micro, là, au premier plan. Donc, je filme tout.
Vous voyez
tout.
La Tour Eiffel, aussi.
Oui, je vois la Tour Eiffel, là, en me penchant un petit peu. Je filme tout, mais je ne sortirai ma caméra peut-être pas de la journée ou qu'une fois pour 10 secondes ou 20 secondes. C'est-à-dire, je prélève sur ma caméra permanente comme une caméra de surveillance. Et puis, il y a dans la journée peut-être 30 secondes qui valent le coup. 30 secondes qui valent le coup. Alors, je n'attends que ça de la journée.
Vous avez déjà filmé aujourd'hui ?
Non, j'ai ma caméra là qui est dans mon sac, tranquillement. Je n'ai pas de problème. Avant, je souffrais quand je n'avais rien filmé dans la journée. Je me disais, c'est une journée perdue. Maintenant, que je filme ou je ne filme pas, c'est aussi bien.
Filmer Alain Cavalier, c'est d'abord attendre, du coup, de ce que vous en dites, ou en tout cas être à l'affût.
C'est d'abord attendre, parce que la vie vous propose des choses beaucoup plus intéressantes que votre imagination. Mais votre travail commence après, quand ces attentes-là sont captées, et vous les mettez les unes à côté des autres, et vous voyez si ça peut faire un film, si ça peut faire un corps avec des jambes, avec une tête et avec des bras, et si ça correspond à vous. Mais comme toutes ces images ont été faites par vous-même, donc il y a une unité automatique à la base qui fait qu'on peut les rassembler, certaines on peut les rassembler quand même.
Puisqu'il est question d'attendre, donc c'est attendre que le film vienne. Est-ce qu'on attend aussi le dernier plan ? Comment ? Alors, cette question-là est abordée hein, dans l'entretien Marie de Quatre-Barbe que vous menez avec Alain Cavalier dans la revue. Cette question du dernier plan, de comment terminer justement un film, alors même que ce film, vous le suivez, vous commencez par l'attendre, puis une fois qu'il s'est mis en route, le film, tout seul, vous le suivez. Comment se résout justement la question du dernier plan et de l'achèvement du film ?
Vous l'attendez quand vous...
C'est-à-dire vous l'attendez vous, aussi.
Comme vous, de toute façon, vous ne pouvez pas... Vous êtes obligé de mettre les événements chronologiquement. C'est-à-dire, vous les vivez chronologiquement, les uns après les autres, mais après, moi, je n'inverse jamais l'ordre. Parce que, comme dans la nature, dans le vécu, ça a été comme ça, si vous inversez l'ordre, déjà, vous détruisez quelque chose d'obscurément logique. Hein ? Donc, il faut... Et donc, vous attendez le plan final... À un moment, il doit arriver quand même. Il doit arriver. Et il arrive toujours. Dans cette méthode-là, il arrive toujours. Alors, il arrive soit carrément à la fin du film, à la fin du tournage, soit avant. Donc, on en met même, il y en a deux ou trois en réserve. Et puis, il y en a un qui s'impose et en fait, il paraît d'une logique absolue. Je pense à la fin du poème de Marie, il y a « J'étends les bras du secret ». Elle dit « je » à la fin. Et elle dit « j'ai fait l'expérience ». Elle ne dit pas « j'ai fait l'étude, la magique étude du bonheur qu'aucun élude », mais « j'ai fait l'expérience hein, ». Et « j'étends les bras du secret hein. ». C'est quand même...
Puisqu'on parle du dernier plan qui finit par arriver chronologiquement, est-ce que vous y pensez parfois, Alain Cavalier, à la dernière image, c'est-à-dire à votre dernière image filmée ?
Je pense tout le temps. C'est la dernière image que j'emporterai avant mon sommeil perpétuel, hein, que j'emporterai de la vie. Je fais des paris tous les jours sur qu'est-ce que je verrai avant de passer, de me métamorphoser. Qu'est-ce que je verrai ? Est-ce que je verrai mon doigt de pied si je suis tout seul, ou un bout de ciel si je tombe à la renverse sur un trottoir, ou une personne qui me tient délicatement la main, hein. Je lui conseille d'ailleurs de me la mettre sous la main, pas sur la main, hein. C'est plus agréable quand, Puis en général, on va voir les malades, on leur parle et puis on leur met la main sur la main. Non, il faut la glisser en dessous, hein. J'espère que j'aurai droit à ça. Ouais. Je m'arrange un peu pour.
Alors le dernier plan, il sera pour vous justement, moi je l'attends aussi, Alain Cavalier, Marie de Quatre-Barbe, Lucie Taïeb, merci à tous les trois, c'est presque la fin de cette émission puisque je vous laisse la poursuivre entre vous et sans moi. Alors bon après-midi à toutes et à tous.
C'est une mère qui abandonne ses enfants.
Oui. Hein,
Et on est seul dans la forêt et il faut retrouver le chemin maintenant.
Non, ce qu'on peut dire, pour arriver ici, on a eu un guide. Hein.
C'est vrai, extraordinaire.
On a pris 3 ascenseurs, hein, des couloirs interminables.
On a bravé le vide.
On est assez bien là, on est bien. Hein.
Bon, on ne va pas partir maintenant qu'on est arrivé jusque-là.
Je n'ai pas bien lu votre poème. Hein.
Si, si, très bien. Moi, je suis un peu tourneboulée parce que vous avez dit putain, mais...
T'as écrit putain, mais il ne faut pas le dire.
Il y en a qui commence par café de la paix. Ici, tout va bien. Hein, café de la paix, ici, tout va bien. Le goût de rien, l'épée rentrée dans le thorax. J'aime beaucoup ça. C'est bien parce que on peut citer quand même des... Là, c'est agréable, l'écriture, on peut citer des petits morceaux. On ne peut pas citer des films, hein. Je peux pas sortir et puis vous montrer un plan.
Mais si, mais on raconte. Après. Bah on les voit quand on les évoque, on les voit. Là, on voit les brodeuses.
Et la canne. Mm-hmm. J'ai revu le film hier et j'avais oublié la canne. Franchement, le film commence et se termine avec la canne.
Et alors, moi, quand j'étais enfant, il y avait c'était le nous n'irons plus au bois. Vous connaissez, nous n'irons plus au bois. Les lauriers sont coupés. Alors, je me disais, les lauriers, qu'est-ce que c'est que les lauriers? La belle que voilà. Qui est-ce, la belle que voilà? Ira l'amasser, les ramasser. Pourquoi elle ira les ramasser? Et j'ai maintenant des dizaines d'années de plus et je n'ai pas compris toujours ce que ça voulait dire. Et c'est pour ça que ça reste une énigme dans mon esprit formidable. Mais pas de réponse, moi.
Et ainsi de suite, c'est vendredi prochain, même heure. Merci à Thierry Beauchamp pour la préparation, à Adrien Roch pour la technique et à François Connac pour la réalisation. Merci à Marie de Quatre-Barbes, Lucie Taïeb et Alain Cavalier. Vous trouverez toutes les actualités de nos invités sur le site de l'émission, à réécouter, podcaster et partager sur franceculture.fr. À 17h, vous avez rendez-vous avec le magazine de la rédaction. Mais d'ici là, c'est l'heure de la méthode scientifique de Nicolas Martin.